France Musique. Musicopolis. Octobre 1979, Lyon. C'est une commande de l'Orchestre National de Lyon. L'œuvre est dédiée à l'orchestre et à son chef Serge Baudot. Elle est créée, bien sûr, dans la maison de l'orchestre, l'auditorium Maurice Ravel. Quelques jours après la création lyonnaise, l'Orchestre national de Lyon est à Paris. Cette fois-ci, Le Monde a fait le déplacement en la personne de son critique Jacques Longchamp, qui en rend compte quelques jours plus tard. Après la sérénade Köchel 320 de Mozart, écrit-il, au grand complet, l'Orchestre de Lyon faisait une éblouissante démonstration avec la création à Paris du Livre des prodiges de Maurice Ohana, dont les sous-titres, Taureau ailé, Dragon à sept têtes, soleil renversé, conjuration des sorts, etc., fourni pour tout potage par le programme, incitait à voyager dans l'espace et le temps. La musique aussi, avec ses harmonies complexes et mystérieuses, ses polyphonies chargées et légères à la fois, cette orchestration aux éclats minéraux, tout un langage monumental et cependant plus souple que celui des grandes bâtisses de Messiaen. Les sous-titres fournis pour tout potage dans le programme, écrivait Jacques Longchamp. Nous non plus n'aurons guère plus de détails sur leur signification précise dans la littérature sur Maurice Ohana et ses œuvres. Il est vrai que le compositeur a un vaste catalogue et que ce livre des prodiges n'est pas son œuvre la plus connue. Lorsqu'on parle de Maurice Ohana, on pense d'abord plutôt au Llanto por Ignacio Sánchez Mejías ou à son opéra La Célestine. Deux œuvres qui ont donné lieu à de nombreux commentaires et études. Pour le livre des prodiges, nous serons obligés d'une part de faire marcher notre imagination, comme le suggère le critique du Monde, et d'autre part de nous livrer à une enquête minutieuse. Cette musique est prenante, n'est-ce pas ? Un peu hypnotique, avec beaucoup de couleurs évocatrices. Alors tiens, commençons par rêver un peu. Revenons au titre lui-même, Livre des prodiges. Qu'est-ce qu'un prodige ? Un événement extraordinaire qui semble de caractère magique ou surnaturel, selon le Petit Larousse. Dans cette optique, les titres des différents épisodes deviennent plus parlants. Le premier, Clair de terre. Le deuxième, Cortège de taureaux ailés. Puis Immémorial, Hydre, Clé des songes et à nouveau Clair de terre, etc. Je vous disais que nous n'avons pas de détails ou de signification précise pour chacun des titres des 13 épisodes du Livre des prodiges. Mais nous avons quelques pistes concernant l'ensemble. D'abord, ce qu'en dit Ohana lui-même dans la note de programme. L'œuvre, écrit-il, adopte la forme d'un concerto pour grand orchestre. Chaque groupe instrumental est amené à déployer ses puissances ou ses vertus spécifiques dans des séquences dialoguées, avant de se fondre dans la clameur des tutti. Entre les divers épisodes, une sorte de refrain rappelle le paysage qui sert de toile de fond à toute l'œuvre. C'est un clair de terre, aux couleurs voilées et changeantes, comme si tout se déroulait sous la veille silencieuse d'un astre dédoublé et lointain, lequel serait notre terre. L'atmosphère du clair de terre, le mouvement initial du Livre des prodiges, avec ses harmonies très longues et soutenues, se retrouve souvent au fil de l'œuvre. Dans le troisième mouvement, Immémorial, le calme initial se tend peu à peu et se transforme en agitation. Le quatrième mouvement du Livre des prodiges de Maurice Ohana, avec ses attaques de percussion, s'intitule « Hydre ». Ici encore, revenons à la définition. Dans la mythologie, l'hydre est un serpent monstrueux à sept têtes qui repoussait à raison de deux pour une à mesure qu'on les tranchait. Le sens littéraire qui en découle est « symbole du mal qui se renouvelle ou s'étend dangereusement sans qu'on puisse le détruire ». Thank you. Dans l'histoire de ce siècle, écrit Maurice Ohana, il y a eu beaucoup d'hydres qu'on n'a pas su maîtriser, qui ont causé des ravages énormes sans qu'on sache très bien pourquoi ni d'où elles venaient. Toute la nomenclature du livre des prodiges est faite d'allusions à ce genre d'événements, anciens ou contemporains. Et quand ils sont contemporains, ils me semblent justement une réincarnation de mythes qui ont déjà terrorisé ou favorisé l'homme. J'insiste beaucoup sur ce point. Il y a toujours une mémoire immémoriale qui est toujours présente. Le livre des prodiges, explique Maurice Ohana, se présente comme une série d'images inspirées par les prodiges qui, depuis la nuit des temps, ont suscité mythes ou légendes qui hantent encore la pensée contemporaine. Ces mythes rendent compte de conflits immémoriaux suggérés, selon le compositeur, par la présence parmi nous de forces qui nous dépassent, qui peuvent nous gouverner même tout en nous ignorant. Les deux parties du livre des prodiges, écrit Maurice Ohana, sont séparées par un silence mesuré qui, sans en interrompre le déroulement, annonce la conjuration des sorts. La conjuration des sorts est l'action d'écarter les effets d'une influence maléfique à l'aide de rites et de formules magiques. Si nous tenons compte de cette définition, nous nous approchons d'une signification de la pièce d'Ohana qui tendrait vers le rituel. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à Sylvie Albert en 1982 sur France Culture, 3 ans après la première de l'œuvre.
Le livre des prodiges, lui, délibérément fait allusion à un rituel. C'est effectivement un rituel qui a également des sous-titres, ces sous-titres ayant peut-être pour intention seconde, car il n'existait pas à l'achèvement de l'œuvre, d'orienter un peu l'auditeur vers cette espèce d'atmosphère rituelle, un peu religieuse peut-être, et où il se mêle par moments des passages de Saturnales, disons, d'une sorte de fête populaire masquée.
Par moment un rituel, par moment un défilé de Saturnales, nous dit Maurice Ohana de son livre des prodiges. Mais du moins, sommes-nous dans le registre du sacré. Ce sacré qui est important dans l'œuvre d'Ohana d'une manière générale. Précision donnée au micro de Myriam Soumagnac sur France Musique en février 1986.
Ce que nous désignons par sacré, qui est devenu un mot vague et plutôt, je crois, à fuir, c'est tout un ordre de sensations, de forces que l'homme cherche à découvrir, du moins à apprivoiser, c'est mon cas en tout cas, et qui le dépasse, et je veux dire qui échappe à l'emprise et de la logique et même de l'intelligence simple. Et à ce titre, évidemment, le sacré englobe un très vaste champ d'éléments obscurs, d'éléments non élucidés, et qui sont ceux où un artiste, à mon avis, a le plus de joie et de plaisir à se mouvoir.
En dehors des significations symboliques que nous pouvons trouver dans le livre des prodiges de Maurice Ohana, il y a un élément très important, c'est le travail de l'orchestre. C'est la seule œuvre du compositeur qui pourrait faire office de symphonie ou, selon ses termes, de concerto pour orchestre. Il le dit lui-même, c'est une œuvre qui a fait plaisir à l'orchestre, aux musiciens de l'orchestre. Et il attache une grande importance à cet aspect des choses. Il n'aime pas froisser ou choquer les musiciens délibérément. Et cette fois encore, il a été heureux qu'au moment de la création, les musiciens de l'orchestre de Lyon soient pris par l'œuvre et qu'ils le lui disent. Puis, lors de l'enregistrement que nous écoutons avec l'Orchestre National de France, il a apprécié à nouveau le travail de l'orchestre et aussi la couleur de l'enregistrement, qu'il a jugé exceptionnelle. Un aspect dont on ne parle pas souvent. Pour conclure, je laisse la parole à Maurice Ohana qui présente son livre des prodiges à la radio en 1982.
Une œuvre qu'on ne peut rattacher esthétiquement à rien du tout, si ce n'est à une recherche personnelle très approfondie et qui fait abstraction radicalement de toute esthétique préconçue. C'est à la fois une sorte de mémoire immémoriale de la musique de toujours et une quête précisément de ce langage qui appartient à tous les temps et à tous les lieux.
La fin du Livre des prodiges de Maurice Ohana, l'Orchestre National de France dirigé par Stanislav Skrofachevski. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Guillaume Ledu pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.